Véroa Afrique, Le Monde aujourd'hui. À Washington.
Le Monde aujourd'hui, édition du jeudi 7 avril 2022. Jean-Roger Billon à ce micro. Bonsoir à tous. Au sommaire de ce journal, l'Assemblée générale de l'ONU a suspendu la Russie du Conseil des droits de l'homme. Mais les atrocités se poursuivent en Ukraine, d'après Anthony Blinken, le chef de la diplomatie américaine. Ici aux États-Unis, la juge Ketanji Brown Jackson aux portes de la Cour suprême. Le Sénat vote pour sa confirmation ce jeudi. L'ancien président burkinabé Roch Marc-Christian Kabore, renversé par le coup d'État, a quitté sa résidence surveillée pour rejoindre son domicile où il demeure sous bonne garde. En Espagne, le Parlement dénonce le virage du gouvernement sur le Sahara occidental. Le Premier ministre Pedro Sanchez est reçu aujourd'hui par le roi Mohamed VI. Ne manquez pas dans cette session d'information la Minute Éco et les sports, mais tout d'abord le journal. L'Assemblée générale de l'ONU vient de suspendre la Russie de son siège au Conseil des droits de l'homme des Nations unies en raison de l'invasion de l'Ukraine lors d'un vote qui a recueilli 93 voix favorables et traduit un effritement de l'unité internationale face à Moscou. Le point avec Lionel Gaïma.
Sur les 193 pays membres de l'Assemblée générale, 24 ont voté contre cette suspension initiée par les États-Unis. 58 pays se sont abstenus, mais les abstentions ne sont pas prises en compte dans la majorité de 2/3 requises. Parmi les pays qui ont voté contre figure la Chine, qui a dénoncé une démarche hâtive, la mise de l'huile sur le feu, ainsi qu'un précédent dangereux. L'Iran, le Kazakhstan et Cuba ont aussi voté contre. Plusieurs États africains, dont l'Afrique du Sud et le Sénégal, ont choisi l'abstention, jugeant que la résolution préjuge les résultats de la commission d'enquête créée début mars par le Conseil des droits de l'homme. Le Brésil, comme le Mexique et l'Inde, tous les trois membres non permanents du Conseil de sécurité de l'ONU, a adopté la même position. Selon Washington, la suspension de la Russie du Conseil des droits de l'homme, la deuxième de l'histoire de l'ONU après l'éviction de la Libye en 2011, est plus que symbolique et accroît l'isolement de Moscou sur la scène internationale.
L'Ukraine a fait savoir qu'elle est reconnaissante de la décision de suspendre la Russie du Conseil des droits de l'homme des Nations unies. Le ministre ukrainien des Affaires étrangères, Dmytro Kuleba, a réagi sur Twitter en disant « Les criminels de guerre n'ont pas leur place dans les organes de l'ONU visant à protéger les droits humains. » Il réclame des armes des pays de l'OTAN pour repousser la menace d'une offensive russe de grande envergure dans l'Est. Kiev exhorte aussi les civils de toute la zone du Donbass et de la région voisine de Kharkiv à saisir leur dernière chance de fuir. Le point avec Eric Manirakiza.
Le chef de la diplomatie ukrainienne a mis en garde lors d'une réunion de l'OTAN à Bruxelles que la bataille pour le Donbass est en cours. Soit vous nous aidez maintenant ou votre aide arrivera trop tard, a-t-il ajouté. La bataille pour le Donbass vous rappellera la Seconde Guerre mondiale avec des milliers de chars, de véhicules blindés, des avions, de l'artillerie, a-t-il prévenu. Toutes les villes libres de la région de Lugansk sont sous le feu ennemi et les forces russes sont en train d'occuper toutes les voies possibles de sortie, a averti sur Facebook son gouverneur. Le nouvel appel à partir concerne notamment la ville de Severodonetsk, la plus à l'est et tenue par les forces ukrainiennes, régulièrement pilonnée par les troupes russes. La pression monte en parallèle sur Moscou. L'Assemblée générale de l'ONU a suspendu la Russie de son siège au Conseil des droits de l'homme des Nations unies siégeant à Genève, tandis que les sanctions s'accumulent. Selon les États-Unis, la Russie pourrait voir son économie s'effondrer de quelque 15% cette année.
Et les États-Unis estiment que la Russie continue à commettre des atrocités en Ukraine. En ce moment même, a déclaré le chef de la diplomatie américaine, Anthony Blinken, à l'issue d'une réunion de l'OTAN. Au-delà de Boucha, près de Kiev, il y a beaucoup d'autres villes que la Russie occupe encore, où nous devons estimer que les soldats russes commettent davantage d'atrocités, a-t-il dit devant la presse à Bruxelles. Une enquête sur les circonstances de la mort de personnes habillées en vêtements civils retrouvées mortes à Boucha est la prochaine étape, a déclaré Martin Griffith, le secrétaire général adjoint de l'ONU pour les affaires humanitaires, assurant que la prochaine étape est donc de mener cette enquête. Le Sénat américain doit voter aujourd'hui pour confirmer la nomination de Ketanji Brown Jackson à la Cour suprême des États-Unis. Si elle est confirmée, Madame Jackson sera la première femme noire et le troisième juge noir à siéger à la Haute Cour fédérale. Nani Talani.
La magistrate de 51 ans, nommée par le président Joe Biden, est quasi assurée d'obtenir le feu vert du Sénat lors d'un vote en séance plénière. Tous les élus du Parti démocrate la soutiennent, ainsi qu'au moins trois sénateurs républicains, Mitt Romney, Lisa Murkowski et Susan Collins, lui garantissant ainsi une majorité des voix. Les démocrates louent les qualifications de la juge Jackson, diplômée de la prestigieuse université d'Harvard, ainsi que son expérience dans le privé et le public. Le président Biden a vanté ses qualifications, sa vaste expérience et son bilan rigoureux de juge. Elle mérite d'être confirmée, a-t-il tweeté. Par contre, les élus républicains l'accusent d'avoir prononcé des peines légères dans des dossiers de pédopornographie. Ketanji Brown Jackson, qui sera la première juge noire, va rejoindre trois blanches à la Cour suprême, les juges Sonia Sotomayor, Elena Kagan et Amy Coney Barrett. Son arrivée ne va pas modifier les équilibres au sein de la Haute Cour, où les juges conservateurs auront toujours 6 sièges sur les 9 au temple de la justice américaine.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Au Burkina Faso, l'ancien président Rochma Christian Kabore, renversé par un putsch fin janvier, est en résidence surveillée depuis et à son domicile depuis hier. Mais on ne sait toujours pas s'il est libre de ses mouvements. Les détails avec Abdourahmane Dia.
Ce matin, quelques militaires entouraient la résidence de M. Kabore où des badauds tentaient d'apercevoir l'ancien président. Nous allons voir si l'on a la possibilité de lui rendre visite au cours de la journée et savoir s'il doit observer des restrictions de mouvement, a indiqué à l'AFP un cadre du Mouvement du Peuple pour le Progrès, le parti de M. Kabore, rencontré sur place et préférant garder l'anonymat. Dans un communiqué hier soir, le gouvernement burkinabé indique qu'après 3 semaines de concertation, M. Kabore va regagner son domicile dans la capitale tout en rassurant que des mesures sont prises pour garantir sa sécurité. L'ancien président Rochmark Christian Kabore a été renversé le 24 janvier par une junte militaire conduite par le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba, aujourd'hui chef de l'État. Il était placé depuis en résidence surveillée à Ouagadougou. Sa libération a été réclamée par la CDAO, mais aussi par l'ONU et l'Union africaine.
Les avocats de la famille de l'ex-président burkinabé, Thomas Sankara, assassiné lors d'un putsch en 1987, ont réclamé aujourd'hui l'extradition de Blaise Compaoré, condamné à perpétuité dans cette affaire et en exil en Côte d'Ivoire depuis 2014. Cette extradition est une lutte de l'État burkinabé, du peuple burkinabé, a estimé Maître Prosper Farama lors d'une conférence de presse mercredi. L'ancien président burkinabé, Blaise Compaoré, a été condamné par contumace à la perpétuité pour son rôle dans l'assassinat de son prédécesseur Thomas Sankara. L'émissaire de l'ONU pour le Mali, El Hassim Wan, a réclamé aujourd'hui au gouvernement malien d'autoriser un accès impératif à la localité de Moura, où l'armée malienne, assistée de forces étrangères présumées liées à la société russe Wagner, est accusée d'un massacre à la fin du mois de mars. En Espagne, la Chambre des députés a dénoncé ce jeudi l'abandon de la position historique de neutralité du gouvernement sur le Sahara occidental. Madrid a décidé à la mi-mars donc de soutenir le plan d'autonomie proposé par le Maroc. Les précisions avec Mouamadou Mfa.
La résolution du Parlement accuse une partie du gouvernement, en référence aux socialistes, d'avoir modifié unilatéralement sa position sur le Sahara sans en débattre avec les députés. Le texte, adopté grâce aux voix de 168 députés de gauche comme de droite, affirme que la Chambre des députés ratifie son soutien aux résolutions de l'ONU et à la MINURSO, la mission des Nations Unies pour l'organisation d'un référendum au Sahara occidental. Ce vote est un revers pour le Premier ministre espagnol Pedro Sanchez sur ce dossier. Il intervient le jour de sa visite à Rabat, où il doit rencontrer le roi Mohamed VI. Abandonnant sa tradition de neutralité, Madrid a annoncé le 18 mars son soutien au plan d'autonomie marocain pour le Sahara occidental. Rabat, qui contrôle près de 80% de ce territoire, propose un plan d'autonomie sous sa souveraineté tandis que les indépendantistes sahraouis du Front Polisario réclament un référendum d'autodétermination.
En Somalie, le bureau du Premier ministre Mohamed Roble a annoncé que le représentant de l'Union africaine, Francisco Madeira, était persona non grata pour s'être livré à des actes incompatibles avec son statut, lui ordonnant de quitter le pays dans les 48 heures. Peu après, le président Mohamed Abdoulaye Mohamed, dit Farmajo, a annoncé qu'il invalidait cette action illégale. Ce bras de fer public au sommet de l'État menace d'attiser les tensions dans ce pays qui attend depuis plus d'un an une élection présidentielle. Voilà pour le journal. Vous écoutez VOA Afrique. À présent, la Minute Éco avec Claire Morin-Gibou.
En 2021, le PIB réel du Rwanda a enregistré une croissance de 10,9%, affirme le Fonds monétaire international. Cette reprise, qui a succédé à une contraction de 3,4% de l'économie rwandaise, est due à une réponse politique rapide à la pandémie, notamment une campagne de vaccination accélérée, selon le FMI. Au Togo, le rythme de la création d'entreprises reste soutenu dans le sillage des dernières années, selon l'agence APA News qui cite le centre de formalité des entreprises. 3932 nouvelles entités ont été créées au premier trimestre, dont 1076 par des femmes, soit une proportion de 27%, en légère hausse par rapport à l'année dernière. Ici aux États-Unis, la secrétaire américaine au Trésor, Janet Yellen, insiste sur la nécessité de renforcer et adapter la réglementation face aux crypto-monnaies, son ministère ayant été chargé par Joe Biden d'un rapport sur le futur de la monnaie. Madame Yellen souligne par ailleurs que les nouveaux types d'intermédiaires devraient être soumis à des formes de surveillance appropriées.
Place maintenant au sport avec Nani Talani.
Bonsoir Jean-Roger, bonsoir à tous. La Fédération guinéenne a lancé hier un appel à candidature réservé uniquement aux nationaux pour le poste de sélectionneur du Sili National. L'entraîneur Kaba Diawara n'a pas été reconduit après l'élimination en huitième de finale de la CAN 2021 contre la Zambie 0-1. Les intéressés ont jusqu'au 15 avril pour transmettre leur dossier comprenant un projet sportif sur 2 ans, une proposition de composition du staff et une proposition financière. Le nouveau coach du Sili National devra qualifier la Guinée et s'investir dans l'organisation de la CAN 2025 que le pays doit accueillir. Dans un entretien avec CAFOnline.com, le Sénégalais Abdoulaye Cissé, le directeur des compétitions de la zone Ouest A de l'UFOA, l'Union des fédérations ouest-africaines de football, promet que cette année, sa zone va mettre beaucoup d'énergie pour l'émergence du football féminin. Concernant les qualifications continentales, il y aura les moins de 17 ans et les moins de 20 ans en football masculin et la Champions League en football féminin prévue au Cap-Vert, en Mauritanie et au Libéria. Pour la zone UFOA, il y a les tournois des moins de 15 ans masculins qui auront lieu en Sierra Leone et au Libéria. Les tournois dames seniors et des moins de 17 ans ainsi que des moins de 20 ans attendent la confirmation des pays hôtes. Enfin, l'African Football in School au Sénégal entre juillet et décembre. L'international français Karim Benzema a été auteur d'un triplé lors de la victoire 3-1 du Real Madrid sur la pelouse de Chelsea hier, montant pour la même occasion sur le podium des meilleurs buteurs de la Ligue des Champions. Karim Benzema totalise désormais 11 buts en Ligue des Champions cette saison. L'attaquant de 34 ans rejoint ainsi l'Ivoirien Sébastien Haller d'Ajax Amsterdam à la deuxième place du classement des buteurs de la compétition derrière le Polonais Robert Lewandowski de Bayern Munich avec 12 buts. Pour finir, le fonds de la FIFA pour les joueurs de football a approuvé ce jeudi 7 avril 140 demandes supplémentaires des footballeurs qui doivent être indemnisés suite à la décision prise par le comité directeur de la FIFA FIPRO conformément au protocole du programme. Créé en 2020, le fonds soutient les joueurs qui n'ont pas été payés ou n'ont pas la possibilité de recevoir dûment les salaires convenus avec leur club. Plus de 1000 joueurs ont reçu des versements du fonds l'an dernier.
Page de sport signée Nani Talani.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Jean-Roger Billon de retour avec vous pour les dossiers du jour. Direction le Mali pour commencer. Après les dénonciations de plusieurs organisations suite à l'opération militaire de Moura, qui aurait fait des centaines de victimes civiles, l'armée malienne s'est livrée à une séance d'explication en donnant des détails sur le déroulement de cette opération, qui selon elle a été menée avec professionnalisme. Le compte-rendu de notre correspondant, Mohamed Danyoko.
Plus de 200 tués et une cinquantaine d'interpellations, c'est selon le communiqué de l'armée, le bilan de l'opération militaire qui a eu lieu du 27 au 30 mars dernier à Moura, dans la région de Mopti. Cette opération, dans un village qui compte 7827 personnes, a été menée suite à des renseignements d'un regroupement de chefs terroristes, a dit le colonel Souleymane Dembélé, directeur de la direction de l'information et des relations publiques des armées.
Et à l'issue de cette rencontre du 20 mars, ils se sont donné rendez-vous à Moura encore, le 27 mars. C'était avec tous les chefs des différents regroupements, des différentes bases. Il fallait que les différents chefs se retrouvent. Et la décision a été prise le 20 pour qu'ils se retrouvent à Moura le 27 mars pour encore réfléchir ou bien tomber sur les voies et moyens pour le financement de leur organisation.
Lors de cette conférence de presse, le responsable de la communication de l'armée a donné des réponses aux nombreuses préoccupations manifestées par des organisations de défense des droits de l'homme sur d'éventuelles exactions au cours de cette opération.
Et pour ne pas faire des dégâts collatéraux, le village a été bouclé la nuit. Le temps de se donner des idées et voir le lendemain qu'est-ce qu'il fallait faire. C'est ainsi que le petit matin, un message a été porté à la mosquée au niveau du minaret, appelant les populations qui ne sont pas des terroristes à se retrouver dans 3 points de regroupement autour du village. Donc voyez comment les dispositions ont été prises pour éviter des dégâts collatéraux au cours de cette opération. Peut-être si vous avez des gens, ils vont le témoigner.
En ce qui concerne la participation des forces russes aux côtés de l'armée malienne lors de cette opération, le colonel Mariam Sagara, directrice adjointe de la DIRPA, est formelle. Selon elle, l'opération a été conduite par les seules forces spéciales maliennes.
Une opération d'opportunité a été menée par les hommes, notamment les forces spéciales de l'armée malienne. Pourquoi les forces spéciales? Parce que ce sont des forces qui sont facilement transportables pour, par les hélicoptères. On est parti, ils ont été largués, ils ont été aidés, comme on l'a dit, c'était une opération aéro-terrestre. L'opération se fait en haut, ça se fait en bas. Il y a eu une combinaison d'opérations. Et les terroristes ont été traqués de tous les parts.
Le procureur de la République, près le tribunal militaire de Mopti, a annoncé l'ouverture d'une enquête par la gendarmerie nationale. Le colonel Souleymane Dembélé précise que cette opération a fait 8 morts et 15 blessés, dont certains grièvement dans les rangs de l'armée malienne. Mohamed Danyoko, depuis Bamako, pour VOA Afrique.
Restez avec nous à Bamako, au Mali, sur le 102 FM, CVOA Afrique, 24h sur 24.
Le premier tour de l'élection présidentielle en France aura lieu dimanche. 12 candidats sont en lice, dont le président sortant Emmanuel Macron et Marine Le Pen, déjà présentes au second tour en 2017. Claire Morin-Gibou a joint Vincent Martigny, professeur de sciences politiques à l'Université de Nice et à l'École Polytechnique.
Pour l'instant, en tout cas, les candidats qui sont en tête sont au nombre de 3. On a d'abord le président sortant, Emmanuel Macron, qui est crédité aux alentours de 25 à 27% des sondages, selon les instituts. Ensuite, vous avez Marine Le Pen, la représentante du Rassemblement national, ex-Front national, candidate d'extrême droite, qui est créditée de 21 à 23% des voix. Et enfin, Jean-Luc Mélenchon, pour le candidat de la gauche dite radicale, en tout cas la France insoumise, qui est crédité donc entre 15,5% et 17% des voix. Donc voilà, ce sont les candidats les principaux, ceux qui devraient drainer à eux trois quasiment deux tiers des électeurs.
On a beaucoup parlé de la campagne d'Éric Zemmour. Il ne perce pas donc d'après les derniers chiffres des sondages ?
Non, je dirais même que sa campagne s'est complètement affaissée puisque Zemmour avait affiché des positions très favorables à Vladimir Poutine. Et la guerre en Ukraine a considérablement ralenti sa campagne. Hein. Je pense qu'il a perdu beaucoup de crédibilité. Deuxièmement, Éric Zemmour, c'est un candidat qui a manqué d'expérience politique puisqu'il est entré en politique en se présentant à l'élection présidentielle. Et une campagne présidentielle, c'est technique, c'est dur, c'est long. Et je pense que M. Zemmour manquait probablement d'expérience pour diversifier ses thématiques puisqu'il s'est avant tout engagé sur les questions d'immigration et d'identité. Sauf que la campagne a plutôt porté sur la question du pouvoir d'achat, et donc les questions qu'il défendait sont passées au second plan avec la guerre et les conséquences économiques de la guerre. Donc ça explique à mon avis pourquoi la campagne de M. Zemmour s'est essoufflée et il devrait finir probablement aux alentours des 8% de voix.
Est-ce qu'on se dirige vers le même second tour, selon vous, que celui de 2017 qui voyait Emmanuel Macron affronter Marine Le Pen ?
Alors on se dirige à un second tour qui en apparence ressemble à celui de 2017 puisque les deux candidats principaux semblent devoir être Marine Le Pen et Emmanuel Macron, mais en réalité, les dynamiques de ce second tour seront complètement différentes, puisque lors du second tour de 2017, le vrai challenger, c'était Emmanuel Macron, et le repoussoir, c'était Marine Le Pen. On dit en sciences politiques que la polarisation, elle faisait autour de Marine Le Pen, il fallait faire barrage à Marine Le Pen. 5 ans plus tard, eh bien, rien n'est moins sûr que ce barrage se poursuive, et qu'on peut penser qu'il puisse y avoir un tout sauf Macron qui se dégage aussi, puisque ce président a la particularité d'avoir des soutiens très forts, mais aussi des gens qui ont beaucoup d'hostilité à son encontre, voire de haine. Et cette hostilité ou cette haine, on sait qu'elles peuvent mobiliser des gens qui peuvent décider de voter pour n'importe qui, sauf Macron. Et là, pour Emmanuel Macron, le président sortant, c'est l'élection de tous les dangers.
Vincent Martigny, analyste politique, enseignant à l'Université de Nice et à l'École Polytechnique.
Washington. La voix de l'Amérique.
Les États-Unis ont annoncé hier soir de nouvelles sanctions contre Moscou à la suite d'allégations selon lesquelles les forces russes en Ukraine auraient tué des civils. L'annonce intervient alors que l'OTAN envisage d'envoyer davantage d'armes lourdes pour soutenir les forces ukrainiennes. Un reportage d'Henry Rigwell à Londres, le récit est de Nathalie Bage.
La Maison-Blanche a cité ces atrocités alors qu'elle annonçait de nouvelles sanctions en coordination avec le G7 et ses alliés européens contre les principales entreprises publiques russes et les banques Sherbank et Alpha Bank. La Russie ne pourra pas rembourser sa dette avec des fonds soumis à la juridiction américaine. Les sanctions visent également les deux filles du président Vladimir Poutine et les membres de la famille d'autres responsables russes, dont le ministre des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, le président américain Joe Biden.
En un an seulement, nos sanctions sont susceptibles d'anéantir les 15 dernières années de gains économiques de la Russie. Et comme nous l'avons empêché d'importer des technologies telles que les semi-conducteurs, la sécurité du cryptage et les composants de la technologie quantique dont ils ont besoin pour être compétitifs au XXIe siècle, nous allons étouffer la capacité de croissance de l'économie russe pour les années à venir.
La Grande-Bretagne a également approuvé une nouvelle série de sanctions. Elizabeth Truss, ministre britannique des Affaires étrangères.
Il s'agit d'interdire les navires russes de nos ports, de sévir contre davantage de banques russes, de s'attaquer aux industries qui remplissent le trésor de guerre de Poutine comme l'or.
L'Union européenne vise le secteur énergétique russe. Charles Michel, président du Conseil européen.
Le nouveau paquet de sanctions comprend une interdiction des importations de charbon. Et, mesdames et messieurs, je pense que des mesures sur le pétrole et même le gaz seront également nécessaires, tôt ou tard.
L'Union européenne a révélé avoir versé 38 milliards de dollars de paiements énergétiques à la Russie depuis le début de la guerre, contre un peu plus d'1 milliard de dollars d'aide militaire à l'Ukraine. Liana Fix, directrice de programme pour les affaires internationales à la fondation allemande Körber Stiftung.
La question est seulement de savoir à quelle vitesse cela se produira et si ce sera suffisamment rapide pour aider l'Ukraine à améliorer sa position de négociation et de combat face à Moscou.
Washington a annoncé cette semaine une aide militaire supplémentaire de 100 millions de dollars à l'Ukraine, y compris des missiles anti-chars. Anthony Blinken, secrétaire d'État américain.
Nous avons décidé de faire trois choses si la Russie décidait de poursuivre cette horrible agression contre l'Ukraine. La première était de soutenir nos partenaires ukrainiens. Nous le faisons. La deuxième était d'exercer une pression extraordinaire sur la Russie. Nous le faisons. La troisième était de nous assurer que nous renforcions les défenses de notre propre alliance, l'OTAN. Et nous le faisons.
Pour sa part, la République tchèque envoie des chars et des véhicules d'infanterie de l'ère soviétique en Ukraine. Les nouvelles sanctions occidentales interviennent alors que les ministres des Affaires étrangères de l'OTAN sont en réunion à Bruxelles.
Vous écoutez VOA Afrique à Douala, au Cameroun, sur Radio Balafon, FM 90.2.
Au Cameroun, l'équipe de basketball, messieurs, des forces armées et de la police négocie ce week-end en Égypte une place pour les playoffs de la Basketball African League prévue le mois prochain à Kigali au Rwanda. Le représentant du Cameroun va devoir pour cela se hisser au moins au quatrième rang. Au terme de la conférence de Nil, les FAP ont quitté le pays hier mercredi après avoir reçu le drapeau national. De Yaoundé, la correspondance d'Emmanuel Gelenta.
FAP va rencontrer lors de la conférence du Nil Zamalek d'Égypte, Petro de Luanda d'Angola, Cobra FC du Soudan du Sud, Espoir Fouchka de la République démocratique du Congo et Cape Town, le champion d'Afrique du Sud. Des adversaires qui ne font pas trembler les joueurs de FAP. Akoumenzo Ebaku, capitaine de FAP Basketball, messieurs.
Comme on dit en anglais, basketball is on the floor and roster is roster. Donc, ça se joue sur le terrain. Et on a joué Zamalek la dernière fois. Et on a affronté Foukache ici à Yaoundé deux fois. Nous étions victorieux de ces deux matchs-là. Et pour les autres équipes, on essaie de les étudier, on essaie de les scouter et comprendre et effectivement comment ils jouent.
Au cours de la cérémonie de remise de drapeau au plénipotentiaire du Cameroun, les responsables du club ont clairement fixé les objectifs aux joueurs. Colonel Jackson Kamgeng, président de FAP Basketball, messieurs.
L'année dernière, lorsque nous allions en compétition, nous avons eu un objectif, c'était d'aller apprendre. Et cette année, nous avons pris ce qu'il fallait pour qu'on puisse aller le plus loin possible.
Passer les quarts de finale, aller au moins au niveau des demi-finales, ça sont les objectifs.
Dans l'effectif de FAP cette année, des joueurs camerounais qui évoluent dans des championnats à l'étranger, notamment aux États-Unis, aux Philippines ou encore au Cap-Vert. L'équipe est entrée en stage le 14 février à Yaoundé. Joël Almeida, poste 2, est l'un des joueurs venus en renfort.
Mon expérience va apporter beaucoup pour l'équipe, mais aussi les entraîneurs, les staffs ont beaucoup d'expérience. On connaît aussi les équipes et les joueurs. Donc, je pense que notre staff va mettre nous en bonne position pour faire notre travail. L'ambiance, c'est bon. Nous sommes ensemble, comme la famille de FAP est comme ça, et on a un bon esprit. Et comme ça, on va être beaucoup motivé pour aller jouer là-bas.
FAP a été quart de finaliste lors de la première édition de la Basketball Africa League. Yves Tiala est le président de la Ligue de Basketball du Centre, où FAP évolue en championnat local.
De joueurs qui ont participé déjà soit à la phase finale, soit aux différentes phases éliminatoires. Donc il y a de l'expérience de ce côté, ce qui fait que je pense que ça va être un point important, surtout lorsque les matchs sont serrés.
La conférence de Nil regroupe 6 équipes. Elle se dispute du 9 au 19 avril au Caire. Yaoundé, Emmanuel Junta, VOA Afrique.
Le Monde aujourd'hui, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Jean-Roger Billon à ce micro, à la mise en onde de Georges-Léonard Sagnot. Un grand merci à la rédaction et à toute l'équipe de production. Rendez-vous sur notre site internet voafrique.com et nos pages Facebook, YouTube, Twitter et Instagram pour un suivi de l'actualité 24 heures sur 24. Je vous souhaite une excellente soirée à l'écoute de nos programmes.